Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, c'est la dernière émission de la semaine. Une heure de conversation tous les soirs avec des artistes. Ce soir, Claire B et Adrien M.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court.
Marie Richeux avec
Claire Barden
et Adrien Mondo.
À genoux, en chaussettes, dans l'obscurité, nous sommes cinq personnes de bientôt 3 ans à un peu plus de 40 autour d'une table écran. Nous nous faisons des sortes de passes de pixels. Un courant circule entre nous, nous ne nous connaissons pas, nous observons précisément les mains de chacun, les avant-bras de chacune, la nuque des autres. Nous sculptons une chose invisible, une chose mathématique qui nous échappe un peu, mais avec laquelle nous jouons, manifestement. Nous créons des vagues, des ricochets dans l'eau, des boules de chaleur. Nous collaborons sans les mots, quelques sourires, des regards et nous nous séparons. Quelques minutes plus tard pour aller danser, doucement, dans une autre rivière de lumière noire et blanche. Nous déchirons un tissu de flocons, nous observons le hasard se marier avec la coïncidence. Nous sommes un peuple des songes, le temps d'une heure ou deux, et nous procédons à des rites que nous ne savions pas connaître. Adrien Mondo et Claire Barden, Faire Corps, c'est le titre de l'exposition Expérience, visible en ce moment, je dis visible, mais en fait à vivre en ce moment, à la Gaîté Lyrique à Paris, c'est jusqu'au 3 mai. On y retrouve ce qu'on peut appeler votre univers, et puis on peut aussi voir vos différentes créations en tournée un peu partout en France, on mettra tout ça sur le site. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir Marie.
Soyez les bienvenus. On entend là la musique d'Olivier Mélano qui a un rôle extrêmement important dans cette expérience, qui est une expérience visuelle, une expérience sensorielle, une expérience des corps, évidemment, on en parlera. Est-ce que vous voulez bien décrire pour nous la manière dont on entre dans Faire Corps ?
On enlève ses chaussures ? On a le droit de garder ses chaussures et de mettre des surchaussures. Mais ça
c'est beaucoup moins bien, je pense.
Ouais, je pense que c'est bien d'être en chaussettes. Il y a de la moquette partout. Et d'abord, on marche. Et en fait, on sent le sol sous les pieds. C'est une idée qu'on a eue avec la commissaire de l'exposition, Jo Sauzande, qui a été vraiment une complice dans la mise en œuvre et la réalisation de ce projet. Et c'est vrai que je crois que c'est aussi dans le titre, hein, il y a quelque chose à l'endroit du corps qui nous intéressait de faire sentir.
On marche, on est plutôt plongé dans l'obscurité, et puis on va regarder en haut, et assez rapidement, on va aussi être comme une sorte de... un balcon, et on va regarder les gens de haut. Et ça va être vraiment un premier paysage extrêmement intrigant, puisque d'abord on regarde un univers dans lequel on n'est pas encore complètement. Et c'est très beau, parce qu'on est dans une position qui est extérieure à une communauté qui est déjà composé. Ça aussi, c'est quelque chose dont vous avez eu envie ou c'est simplement la géographie des lieux qui a fait que c'est comme ça qu'on entre ?
À chaque fois, c'est une combinaison assez complexe de contraintes entre l'architecture du lieu, des considérations bêtement de sécurité aussi, qui fait qu'on peut mettre ou pas mettre des choses à des endroits, et de composition de perspectives. Qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va entrevoir et qu'est-ce qu'on va deviner ou sentir. Et là, c'était plaisant de jouer en sachant qu'en descendant les escaliers après, on découvrirait ce qu'on voulait montrer.
Moi, j'ai à un moment voulu être guide de moyenne montagne. Et quand je conçois des scénographies, les scénographies de nos installations, j'aime bien imaginer des parcours avec des points de vue, avec des rapports d'échelle qui soient très différents. Avec des seuils qui invite à être franchi. Et c'est vrai que quand on arrive dans ce premier espace, à l'accueil de l'exposition où on enlève ses chaussures, il y a déjà des nuages en fait qui nous invitent à être regardés. Et c'est les nuages en fait qui nous invitent à aller baisser le regard et descendre à l'étage d'en dessous et nous appellent en fait à prolonger le chemin.
Alors vous dites des nuages, pour moi elles n'ont été ces formes-là que des montagnes inversées. Je n'ai jamais vu de nuages.
C'est ça qui est formidable, c'est que chacun voit ce qu'il veut.
J'ai vraiment jamais vu de nuages.
Qui est très juste de voir des montagnes inversées, parce que c'est finalement comme ça qu'ils sont fabriqués aussi ces nuages au départ.
C'est-à-dire
c'est des voiles de métal qu'on a sculptées à la main. C'est pas très très compliqué au sens où ça se sculpte assez facilement. Et une fois qu'on a obtenu une forme qui nous convient, on va l'accrocher avec des fils d'alu comme ça, à des cadres ou alors au grill du lieu. Et on crée effectivement des formes qui sont à mi-chemin entre la pierre et le nuage. Et c'est pas mal d'avoir des objets qui sont des paradoxes.
Oui, de toute façon, c'est vraiment paradoxal. C'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est un paysage qu'on parvient à complètement définir. Et tant mieux, il se modifie. Ce paysage agit et transformé par les personnes qui y vivent d'une certaine manière. Mais je me suis demandé, moi, en sortant, quel genre de rapport vous aviez tous les deux avec ce que c'est qu'un paysage, un environnement.
Je peux continuer ma...
Votre
je peux continuer mon histoire de guide de moyenne montagne.
Moyenne.
Moi, je suis très modeste. La haute montagne, c'est vraiment difficile. On est nés à Grenoble tous les deux et on a beaucoup de respect pour la montagne. Moi, j'adore marcher. Et le paysage, il s'arpente. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose un paysage, c'est quelque chose qui est vécu à l'échelle du pas. Et c'est dans le trajet que le paysage, il se comprend, qu'on en comprend les échelles, petites et grandes.
Voilà. Donc davantage avec les pieds qu'avec les yeux?
Ouais. C'est bizarre, hein, pour un artiste visuel.
Pas du tout. Ça se ressent absolument dans votre travail. Et en ce qui vous concerne, vous?
Je pense que dans le paysage, il y a cette sensation de quelque chose qui dépasse. Et c'est ça que j'aime ressentir et voir. Et je me souviens, dans les paysages marquants qui m'ont traversé, cette découverte de la mer de glace pour la première fois, ou d'une mer démontée. Vraiment, c'est ce genre de choses que... Il y a un côté du spectaculaire que j'aime dans le paysage.
Avec quelle sensation, ces découvertes-là?
De remise en perspective de la métaphysique, quoi. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait là? C'est fou, c'est complètement fou ce qui se passe.
Mais alors quoi, on est des petites choses?
Oui,
on est des grandes choses.
Des petits assemblages de particules présents sur Terre.
Avec les mêmes particules que la mer démontée et que les grandes montagnes?
Ben juste avec carbone, hydrogène, oxygène, azote.
On arrive à peu près à la même conclusion quand on a marché très longtemps. Une fois j'ai marché 600 km pendant un mois. Et à la fin j'avais vraiment l'impression de faire corps avec le paysage. Et
donc c'est qu'il y a une vraie
fusion. C'est extrêmement
rassurant.
Quoi. Oui, il y a une vraie fusion. C'est une expérience qui est très... Enfin, qui a été vraiment fondatrice pour moi, de sentir à quel point j'avais ma place, et qu'elle était ni trop grande, ni trop petite, mais qu'elle était là.
Et vous vous dites que c'est rassurant alors, on n'est pas du tout dans quelque chose qui impressionne ou qui dépasse, parce qu'il peut y avoir aussi quelque chose de complètement vertigineux en fait dans cette idée-là. Vous vous dites non, finalement cette expérience-là, c'est aussi trouver une place.
Ben, c'est trouver sa place et, en tant qu'humain et aux côtés de tout ce qui n'est pas humain. Et de sentir à quel... C'est vraiment une sensation, hein. C'est pas du tout quelque chose de l'ordre de la théorie. Enfin, en tout cas, dans la marche, dans le paysage, il y a cette sensation qu'on est côte à côte avec des espèces, avec des êtres vivants, végétaux, minéraux, animaux, et qu'on est tous ensemble, et qu'il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre, et qu'on vaut autant que la fourmi, en fait. Et ouais, moi j'ai trouvé ça rassurant. Mais je peux comprendre que ce ne soit pas forcément l'expérience de chacun.
Mais en tout cas, il doit y avoir quelque chose de cette rassurance qui transpire ou qui se dilue comme ça dans ce que vous créez, puisqu'il y a un calme ou une confiance, je dirais. Et moi, j'ai observé une confiance dans tous les corps qui étaient autour de moi, dans cette installation, dans cette exposition expérience. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de crainte, en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup d'inhibition, que les gens se déplaçaient avec une grande confiance. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous créez l'un et l'autre ?
Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de concret, mais par contre, dans les lignes directrices qu'on s'est données avec Olivier et Claire, quand on a travaillé le projet, c'était celle d'une puissante douceur. On sait que c'est quelque chose qui nous est cher à tous, enfin à tous les trois, je veux dire, de chercher cette puissante douceur, de pas, dans nos esthétiques, la violence et l'incarnation de quelque chose de stressant, c'est pas un outil qui nous traverse.
Et c'est vrai qu'il y a une dimension extrêmement paradoxale, ça fait déjà la deuxième fois que j'emploie ce mot-là, mais entre le fait d'utiliser des technologies dites nouvelles, numériques, et d'offrir une expérience douce, collective. C'est un paradigme qui n'est pas forcément celui qu'on peut observer de manière classique, disons.
Mais maintenant un peu plus.
Plus, voilà. Et en tout cas, nous, c'est vrai qu'on a envie d'être artisans d'une utilisation des technologies qui soit au service de situations de douceur collective, partagée, telle que vous l'avez décrite en introduction.
Oui, on va y revenir.
C'est un choix, c'est pas un hasard. Et c'est clair que on a beaucoup de, on n'est pas du tout, dans une vision naïve des technologies. Et on a beaucoup d'estime et d'admiration pour les artistes qui s'emparent de discours dystopiques avec des technologies. Mais c'est clair que ça ne fait pas partie de notre personnalité, de notre sensibilité. Nous, on utilise les technologies comme hommes et femmes de théâtre, en fait, qui utilisent des outils pour créer des rituels, pour créer des expériences symboliques. Voilà.
Est-ce que vous vous méfiez de ne pas être trop proche d'une frontière qui pourrait être le langage marketing de tout plein de gens, je ne veux pas prononcer leur nom, mais des ordinateurs hyper blancs, hyper beaux, hyper bien faits, et qui pourraient dire exactement la même chose, c'est-à-dire on veut créer des expériences bienveillantes et positives avec la nouvelle technologie. J'ai trouvé que ce qui était assez fort, c'était que partant de presque des mots qui pourraient être les mêmes, vous êtes évidemment à un endroit extraordinairement différent. Mais est-ce que vous vous méfiez de ça ?
On s'en méfie comme de la peste.
Bah ouais,
mots, mais ça fait partie des questions qui nous taraudent beaucoup en ce moment. Et
vraiment... Parce que c'est tellement utile. En fait, on n'a pas ce langage-là, ces outils-là. Être bienveillant avec un ordinateur et des logiciels, c'est même pas l'avenir, c'est l'ultra-présent, partout. De la domotique à n'importe quel...
Et d'un autre côté, c'est aussi un enfer absolu.
Bah ouais.
Et c'est un futur qui nous mène droit dans le mur. Donc on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est que...
Comment ne pas servir le discours en fait, des multinationales
naïvement,
qui utilisent les mêmes technologies que les nôtres.
Et les mêmes discours.
Et les mêmes discours, alors à la différence près, mais... Encore une fois, je sais pas, peut-être qu'on se trompe, hein, mais on a quand même on utilise quand même des technologies de manière complètement inutile. On crée des situations qui n'ont absolument aucune fonctionnalité. Aucune.
Et on est aussi dans un artisanat bidouille que personne ne soupçonne vraiment, mais qui est de l'ordre du démesuré. C'est-à-dire, ce qu'on construit, c'est des châteaux de cartes qui sont branlants et qui peuvent s'effondrer à n'importe quel moment. Je pense que c'est un héritage du jonglage qu'on a gardé parce qu'il nous fascine dans la fragilité qu'il porte. Et on n'est pas du tout une multinationale, quoi. On fabrique nos petits ordinateurs, on compose avec des bugs qu'on n'arrive jamais à contourner. Et ces accidents-là, en fait, on les prend comme si c'était les petites miettes de la vie quand on a coupé le pain, quoi.
C'est peut-être ça qui vous préserve, finalement.
Peut-être.
C'est l'absence de l'immense et de la totale maîtrise.
C'est ça, je pense. Et puis sur Faircore, j'ai l'impression qu'on a une sorte de lâcher prise, c'est-à-dire le projet qu'on conçoit, une fois qu'il a été donné au public, là, il se passe des choses qu'on trouve très belles, de douceur et de présence et d'ambiance, et ça nous dépasse complètement aussi.
C'était complètement imprévu tout ça ?
Non, c'était pas complètement imprévu, mais...
Quand je dis c'était... tout ça, on va essayer de donner des choses comme ça à voir pour les personnes qui nous
écoutent. En fait, ce qui n'est pas du tout imprévu, c'est le fait de construire avec précision et avec tous les outils qu'on peut mettre en place, avec une équipe incroyable, avec des compétences, des savoir-faire, une vision. Et une vision de quelque chose que nous, on aimerait ressentir et voir. Et ça, j'avoue que effectivement, ça n'est pas du tout un hasard. C'est extrêmement construit, travaillé. Ça prend des années. Ce qui est pour nous une surprise, c'est le fait de sentir que ce que nous on a voulu voir, et ben finalement ça touche d'autres personnes. Mais c'est sûr qu'on a d'abord essayé de faire quelque chose qui nous touche nous en fait, et qu'on ait envie de partager cette maison là. Voilà.
Le geste serait l'émergence dans l'instant de cette éternité en devenir qui est insaisissable, mais qui à un moment donné apparaît comme un son sort du silence, comme le visible sort de l'invisible. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que le geste, par nature, est impalpable. On ne peut pas le toucher. Il nous touche, mais on ne peut pas le toucher. Marquer la vision, c'est pareil, on ne peut pas voir ses propres yeux. Et c'est ça, ce mystère-là, d'être au cœur de quelque chose qui est insaisissable et qui fait que justement, parce que c'est insaisissable, ça donne toute la substance, toute la saveur et toute la reconnaissance que l'on peut en avoir. C'est curieux. L'inconnu qui nous ramène au connu, qui nous renvoie à l'inconnu.
C'est la voix de la philosophe Chantal de Dianou en 2001 sur France Culture au micro d'Alain Weinstein qui parle du geste qui apparaît comme un son sort du silence. Et une des premières choses que l'on voit quand on entre dans Faire Corps, donc encore une fois pour essayer de décrire aux personnes qui n'ont pas la chance d'y aller, c'est un espace où on va dire que la majorité des choses qui nous arrivent sont des choses de lumière, on va dire, voilà. C'était une bonne chose, hein. Plonger dans du son, les choses qui nous arrivent sont des choses de lumière. Mais la deuxième chose qui nous arrive, c'est l'observation des gestes. Les siens, on fait des gestes comme ça, qu'on ne pensait pas qu'on allait faire, et on observe des gestes qu'on ne pensait pas qu'on allait observer. Il y a quelque chose dans l'espace qui semble inviter les gens à faire des gestes. Là aussi, Claire Bardenne, tout à l'heure, vous disiez il y a des choses qui sont imprévues, puis il y a des choses qui sont prévues. Vous ne pouvez pas prévoir que quelqu'un va tendre la main, tendre un pied, peut-être se rouler au sol, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Ou est-ce que vous le désirez ?
On le désire, il y a une invitation au jeu. Et ces pixels, cette lumière est le début de l'invitation.
C'est une sorte d'improvisation collective, avec des cadres, un cadre qu'on aurait défini. Et des partenaires qu'on impose, hein, des partenaires de lumière, mais qui sont pas des partenaires compliqués, qui sont des partenaires avec lesquels on a envie, voilà, qui nous invitent à la courbe, qui nous invitent à des gestes très simples. Je reviens à la marche. Moi, je suis pas danseuse, je suis pas chorégraphe. Malgré tout, on fait quand même des spectacles et on est extrêmement attaché au mouvement. Et moi, je sais que mon rapport au mouvement, il passe par les mouvements les plus simples. Voilà. Être assis, debout, marcher. Et juste construire les conditions pour que cette conscience-là, de ces gestes-là, advienne. Et que tout d'un coup, on les observe sur soi et les autres. Prendre conscience de ces postures. Recouvrir le sol de moquette pour qu'effectivement, on puisse se rouler par terre. Moi, je m'allonge par terre dans cette expo.
Vous y êtes souvent ?
En ce moment, oui, on y est à peu près toutes les semaines.
Ouais, on y est de temps en temps.
Vous y faites quoi ?
En fait, on fait des ateliers en ce moment avec des collèges de Paris. Et donc, on revient à Paris une fois par semaine, à peu près. Et on passe à l'expo pour voir comment elle va, comment ça se passe.
Et vous les guidez, les collégiens, ou vous les laissez complètement ?
Ah non, là, c'est un autre projet qui n'est pas forcément relié avec Faire Corps, mais qui est relié avec Aqua Alta, qui est un spectacle qui vient jouer le mois prochain.
Et quand vous allez voir si l'expo va bien, vous regardez les gens ?
Oui.
Moi, je me suis demandé, par exemple, j'y suis allée dimanche dernier, je me suis demandé si vous étiez quelque part, comme je ne savais pas du tout à quoi vous ressembliez, je me suis dit, ça se trouve, ils sont assis, puis ils regardent.
Ça nous arrivait, ouais, dimanche dernier.
On était là,
dimanche dernier. Ah, on était dans un coin, et puis...
On était assis, on... ouais.
Et notre fils qui découvrait l'exposition aussi.
Et qui faisait quoi ?
Qui courait partout.
Et qui se roulait par terre.
Non, mais parce qu'il y a évidemment ça. Mais il y a aussi des gens, j'imagine que tous ces gens-là n'étaient ni danseurs, ni chorégraphes, ni, je sais pas, guides de moyenne montagne. Et j'ai vu tellement de gens danser. J'ai vu tellement de gens faire des choses qui s'apparentent vraiment à de la danse. Qui est... C'est peut-être marcher, mais c'est marcher d'une manière telle qu'en fait, c'est autre chose que marcher.
Et après, les gens aussi, comme on est dans ce jeu de voir comment ça fait, ça le désigne par rapport aux gestes, et ils n'hésitent pas à essayer des gestes que d'autres font spontanément. Et c'est vrai qu'il y a des gestes qui se passent d'une personne à l'autre, comme, comme une phrase peut se répandre.
On est sur un équilibre un peu précaire entre sur le fil du ludique. Ce fil-là, qui s'appelle le ludique, il peut basculer dans... La foire, hein, où ça devient un peu excessif, ou au contraire, nous faire aller à l'endroit de l'enfance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me le représente. Et dans l'enfance, il n'y a rien... Tout est bien, en fait. Et on peut tous basculer dans l'enfance, à un moment ou à un autre. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Et je ne sais pas si on fait danser les gens, en tout cas, on les fait basculer dans l'enfance.
Bouger.
On les fait bouger.
Déjà.
On les fait bouger.
Pas une petite chose. C'est-à-dire que vous les faites se déplacer sans les obliger à rien. Vous dites finalement ce sont des partenaires faciles, ces partenaires de son et de lumière. C'est vrai qu'il y a une manière de guider qui n'est pas contraignante. Mais les gens se déplacent, essayent des choses. Moi, j'étais très surprise aussi de voir les gens qui n'étaient pas inhibés, quoi, par leur propre mouvement, par leur propre manière de faire. Alors, vous dites, on est au bord du ludique, ça veut dire que de ça aussi, vous vous méfiez l'un et l'autre ?
C'est toujours le risque, quand on travaille sur un dispositif interactif, entre guillemets, de donner une matière qui colle au geste et qui nous effraie un peu parce que ça provoque la gesticulation. Et... peut-être on essaye de mettre de l'air là-dedans pour que ça respire plus et que on invite à, par exemple à de la lenteur sur certaines choses pour sortir de
l'immédiateté
et de l'action-réaction qu'on cherche tout de suite que tout le monde cherche tout de suite instinctivement mais qui finalement nous enferme dans quelque chose d'un peu trop étroit.
On compte beaucoup sur l'imaginaire en fait des gens. On construit des matières donc, qui sont vidéo-projetées en noir et blanc, mais qui évoquent des choses. En tout cas, nous, dans la façon dont on les construit, on est habité par des images, des mouvements de fluide, du sable, des herbes. Et c'est ces imaginaires-là qu'on convoque quand on choisit la façon dont les choses bougent. Et on espère bien que les gens, en rencontrant ces matières en mouvement, soient appelés dans leur propre imaginaire, inconscient, personnel ou collectif d'ailleurs. Et que justement, ils prolongent en fait l'expérience et que ça les amène aussi dans des gestuels qui sont de l'ordre de leur propre inconscient. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on traverse une rivière ? Qu'est-ce qu'on fait quand on met les mains dans le sable ? Et quand on est plusieurs, on regarde les mains. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde un petit insecte et qu'on souffle dessus ? Voilà. On écrit avec l'imaginaire, le nôtre et celui du public.
Sans qu'on aille vers quelque chose de totalement mimétique, c'est-à-dire qu'à aucun moment il y a des grains de sable, à aucun moment il y a des brins d'herbe ou à aucun moment il y a des ricochets dans l'eau.
Singer la nature, ça serait extrêmement difficile et puis surtout ça serait totalement vain parce qu'elle est tellement mieux. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt l'invitation à la transposition, c'est-à-dire cette métaphore abstraite, là, on peut la donner aux gens, elle devient facilement appréhendable parce qu'elle est représentée visuellement, et chacun en fait ce qu'il veut.
Et peut même se décoller un peu, éventuellement, de la rivière, du sable ou des herbes hautes, c'est-à-dire que ce qui est quand même aussi intéressant avec cette forme d'abstraction qu'appelle le noir et blanc, c'est qu'on peut rêver un tout petit peu plus loin que le simple paysage de la rivière et des roseaux.
On a l'espoir de créer des situations poétiques, Et peut-être que cette poésie, elle est...
Ne vous excusez pas.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaye. Je ne sais pas si ça advient, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye. Et c'est pareil, c'est une alchimie qui est subtile. Et des fois, ça fait plof. Mais c'est clair que plus on met d'air, et plus on fait des collages comme ça, qui sont pas tout à fait précis, et où il y a beaucoup de place pour la personne qui rencontre cette expérience, plus je pense que la poésie, elle a de l'endroit, en fait, pour, de l'espace pour s'exprimer, quoi.
L'animisme, c'est cette idée qui est partagée par nombre de collectifs indigènes dans le Grand Nord et ailleurs, en Amazonie aussi, qui est que nous partageons avec les autres membres du vivant, les autres êtres, quelque chose qu'on pourrait appeler un fond commun animé. Alors Philippe Descola, qui est à l'origine de la remise en action de ce mot, dirait intériorité. Bon, on peut aussi dire âme. Voilà, qu'on partage donc une âme en commun avec tous les êtres qui nous entourent, et que ce qui nous différencie, en fait, c'est l'enveloppe, c'est les habits qu'on porte, c'est-à-dire nos corps. Et alors, à quoi ça sert, en fait, de penser le monde comme ça? C'est que du coup, on est en mesure d'enclencher un dialogue avec les êtres qui nous entourent, ce qui est absolument indispensable lorsque vous vivez dans un contexte de chasse et de pêche, où en fait pour survivre, il faut pouvoir poursuivre, traquer, pister des animaux, puis potentiellement les tuer. Et surtout, une fois que vous les avez tués, il faut qu'ils puissent revenir. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en capacité de dire à leur âme que demain, elle pourra revenir sous une autre forme, sous une autre incarnation. Parce que sans ce cycle-là, si ce cycle-là se brise, évidemment, de manière concrète et pratique, il devient impossible de survivre en forêt.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec
Claire Barden
et Adrien Mondeau.
C'est la voix de l'anthropologue Nastasia Martin, que vous aviez reconnue, qui était venue à Parler Temps qui court à l'occasion de la parution de son livre Croire aux fauves, et qui parle de l'animisme comme quelque chose d'absolument nécessaire quand on vit en forêt et qu'on chasse et pêche et qu'il faut faire revenir les âmes des animaux. Mais c'est aussi un mot qu'on retrouve souvent dans la description de votre univers artistique, dans la manière dont vous en parlez, dans la manière dont les autres parlent, alors qu'on est au beau milieu des pixels, de l'informatique, des écrans plats, de la lumière, on imagine plein de petits 1 et plein de petits 0 pour coder tout ça. Alors pourquoi c'est si présent, cette idée-là? Claire Barden, Adrien Mondeau.
Je pense que c'est une manière qu'on a de réenchanter des choses qui nous semblent nécessaires à réenchanter. Et c'est aussi une manière de tenir, qui nous fait tenir en vie, c'est-à-dire d'imaginer la vie partout.
C'est une manière de porter, de transmettre des récits qui nous touchent avec nos outils. Mais finalement, oui, moi je me sens très proche des paroles de Nastasia Martin. Alors que notre quotidien est très différent et nos pratiques, nos matières ne sont pas les mêmes. Et pourtant, j'ai l'impression que j'ai envie de parler de ces choses-là. Ouais. J'ai envie. Et je pense que par exemple, quelqu'un comme Hayao Miyazaki, en faisant des films d'animation, comme Mon voisin Totoro, Ponyo, il fait des films d'animation, finalement. Il fait ça... aujourd'hui, en plus, avec beaucoup d'ordinateurs aussi. Mmh. Et personne ne se pose la question. Et il a un discours animiste. Et il porte ce récit-là. Et il le fait rayonner. Et en fait, moi, je me sens un peu au même endroit. En fait. vraiment d'utiliser des outils pour créer une attention. Voilà, je crois que c'est ça, vraiment créer une attention à quelque chose en fait.
C'est d'ailleurs le titre du cycle dans lequel vous...
Ce n'est pas un hasard.
Vous êtes trop fort à la Gaîté Lyrique à Paris, justement, faire attention. Alors, il y a évidemment plein de manières de pouvoir entendre cette expression-là. Faire attention, comme se trouver dans une époque hyper sécuritaire où tout le monde fait attention. Et puis, il peut y avoir aussi une manière de porter son attention aux choses. Et puis, une manière de faire avec l'attention. Enfin, il y a mille déclinaisons possibles. De même qu'il y a mille déclinaisons possibles de faire corps, qui est le titre de cette exposition expérience. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette façon de faire attention, de donner attention, de prêter attention?
C'est l'idée de prendre soin, tout simplement, de l'humanité qui est, à notre sens, en grand péril, de toute manière. C'est peut-être la seule chose qu'on peut essayer de faire en tant qu'artiste d'utile.
De l'humanité et du vivant, alors? Parce que si on est du côté de l'animisme, oui.
toutes les choses et tous les êtres, ouais. Si on est dans ce soin-là, finalement, si cette intention, elle nous habite, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye d'appliquer. Hein. Si cette intention nous habite, par exemple, ouais, l'usage des technologies peut retrouver peut-être une place qui soit plus éthique. En tout cas, on essaye.
Vous avez l'impression que c'est compliqué ?
Bien sûr, c'est des enjeux qui nous dépassent, qui sont extrêmement compliqués.
Mais pour vous, je veux dire, à votre échelle.
Ah ben, nous, on n'arrive pas à résoudre le paradoxe là-dessus. Enfin, on se questionne, mais on n'a pas de solution. On se dit, comment on arrive à créer sans faire l'apologie des technologies, alors que ce sont nos outils de base et qu'on ne sait pas créer avec autre chose aujourd'hui.
Et vous pensez qu'il faudrait ne pas... C'est-à-dire, vous voudriez quoi, ne pas créer avec ça, trouver d'autres outils?
Ben, on ne sait pas faire. Enfin, on sait pas,
mais vous voudriez.
Je ne sais pas si je voudrais, parce que je me sens pas la capacité. Enfin, je ne saurais pas quoi faire d'autre. Mais j'avoue que ça me pose vraiment une question de devoir acheter des vidéoprojecteurs pour créer et de devoir acheter des ordinateurs pour créer.
Mais enfin, vous continuez de le faire. Parce que je veux dire, on recevait hier un duo de jeunes femmes artistes qui créaient avec de la terre et de la paille. Donc on peut pas, enfin je veux dire, vous faites un, c'est parce que c'est vos outils de prédilection, vous pourriez très bien sculpter.
Je pense que la lecture de Croire aux Fauves m'a beaucoup aidée dans cette façon de se dire qu'on n'est pas obligé de résoudre les paradoxes, on n'est pas obligé. Et je crois qu'on est habité par ce paradoxe, on est à la fois quelque chose et quelque chose d'autre. On est à la fois du côté de la technologie et du côté du vivant. Et du côté de l'image et du côté de la matière. Et tout ce qu'on fait finalement, dans tout notre parcours, tous nos projets, c'est travailler sur le seuil en fait, sur cet endroit où les choses se rencontrent. Et on n'arrive pas forcément à résoudre des fois des choses qui ne se rencontrent pas, mais c'est le seul endroit qui nous intéresse. Et voilà, je commence à me dire que peut-être qu'il y a des paradoxes qu'on ne résout pas. Et celui-ci en est un.
Et puis vous travaillez dans un monde qui est celui-là aussi.
Exactement. Enfin,
je veux dire un monde aussi, une époque peut-être, non ?
Tout à fait. Et puis c'est peut-être une façon aussi d'amener à l'intérieur des théâtres, à l'intérieur des centres d'art, des lieux de culture ou des lieux de... Oui, des lieux de rassemblement autour de formes culturelles, appelons ça comme ça. D'amener des formes d'attention au vivant alors qu'on est en ville, quoi. Et finalement, ça fait partie des façons qui sont, je trouve, intéressantes.
Pour moi, la postmodernité, c'est la synergie du développement technologique et d'éléments archaïques, dans le sens simple du terme, arché, ce qui est premier. Et de fait, si vous voulez, eh bien, il y a cette espèce de magie qui est là, où on va vivre des choses archaïques, anciennes, grâce au développement technologique. Je donne un exemple, moi, qui m'est cher. Qui est le Minitel. Voilà typiquement quelque chose qui est postmoderne, c'est-à-dire quelque chose où, grâce à un médium de pointe, le vidéotexte, j'arrive à rentrer en relation communautaire avec d'autres personnes pour essayer de faire communauté. Communauté sexuelle, communauté religieuse, communauté amicale, que sais-je, peu importe en la matière. Mais il y a là quelque chose qui est de l'ordre typiquement de la magie, du réenchantement. Mais c'est un réenchantement, si vous voulez, qui ne fonctionne pas comme pouvaient fonctionner les contes et légendes de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, mais qui va fonctionner grâce ou à côté ou avec le développement technologique. C'est ce que j'appelle la synergie, la démultiplication des effets. Et on peut, comme je le dis pour le Minitel, on peut le dire également pour ce qui concerne l'informatique, les jeux, le téléphone,
tout ce qui appartient au télos.
Tout ce qui est de l'ordre du télos qui rapproche, curieusement, alors que le télos voudrait dire lointain.
On est évidemment en 1994, puisque l'exemple technologique qui est pris, c'est le Minitel et le téléphone. C'est le sociologue Michel Maffesoli, au micro de Francesca Piolo dans l'émission À voix nue en 1994, donc, qui parle de cette idée-là, peut-être pour continuer la conversation, c'est-à-dire cette façon d'appeler les nouvelles technologies, bon, qui commencent à être plus vraiment nouvelles, hein, quand même, pour faire communauté. Alors, je voudrais juste revenir à ce que je décrivais en début d'entretien, à savoir à un moment donné, je sais pas, peut-être il a fallu 20-25 minutes dépasser le côté curiosité où tout le monde est comme ça un peu émerveillé par l'endroit où il rentre, éventuellement s'il a 4, 5, 12 ans, se jette par terre, se roule par terre, etc. Après il y a un calme. Et puis on se retrouve dans certains endroits de faire corps, et notamment autour de cette table-là, parce que moi c'est à cet endroit-là que j'ai vécu cette expérience. Et puis au début, chacun est dans son coin, donc tente des trucs avec ses mains, voilà, il y a de la lumière dans nos mains, je sais pas comment dire les choses autrement, et puis on peut, en faisant certains gestes, rassembler quelques grains de lumière, et puis les réexpédier sur cette table, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'on est en train de faire des choses ensemble, et que ces gens qu'on connaissait pas, on leur balance de la lumière et nous en renvoie. Tiens, on regarde qu'il réussit à sculpter quelque chose, on essaye de faire pareil. Et il y a une petite communauté qui se crée autour de cette table-là. Est-ce que vous diriez que c'est une des choses que vous cherchez ou que vous désirez, pour reprendre le mot que vous utilisiez tout à l'heure, Adrien Mondeau?
Oui, c'est quelque chose définitivement qu'on cherche, c'est à quel endroit on peut mettre des outils numériques pour rassembler des gens plutôt que de les séparer. Et typiquement, dans les spectacles concrets, l'outil ordinateur n'est jamais là pour décider, il est là au contraire pour permettre aux gens d'écouter et d'être ensemble, que ce soit les régisseurs avec les danseurs au plateau. C'est toujours des systèmes qui nous permettent de jouer ensemble ce qu'on conçoit.
Et là, dans cette exposition?
Eh ben, dans cette exposition aussi, ouais, c'est vraiment ce principe-là de jouer ensemble avec de la matière physique. Dans le dispositif que vous décrivez, c'est donc un modèle physique, c'est-à-dire qu'on donne à la lumière la propriété de la matière. Mmh. C'est-à-dire qu'on donne du poids à de l'image, ce qui n'est normalement pas le cas. Et c'est cet héritage finalement du jonglage, encore une fois, qui permet de manipuler dans le jeu ces pixels.
C'est vraiment ce qu'on se retrouve à faire, hein, autour de cette table. Moi, j'avais l'impression que petit à petit, on était capable de façonner nos petites balles et de se les envoyer, d'imaginer des figures, de répéter certaines figures, de se rendre compte qu'on était en train de le faire. Parce que tout ça, faut quand même bien s'imaginer que on est dans le noir, on se connaît pas, enfin, dans l'obscurité. Il n'y a pas un petit cartel qui nous dit, mettez-vous autour de la table et faites ça.
Non, on a essayé de mettre le moins possible d'indications, de laisser la confiance, effectivement, guider les gestes du public. Je pense que l'obscurité aide à lâcher prise, quelque part. Enlever les chaussures aussi, ça aide. Et finalement, je me faisais cette réflexion, c'est pas souvent qu'on a des dispositifs numériques qui sont pas personnels. C'est pas souvent que c'est des dispositifs collectif, public, enfin d'une certaine manière.
Oui, c'est rare.
C'est rare. Et donc là, on a des espaces, donc des sols interactifs, des écrans transparents, des tulles sur lesquels on projette des points en mouvement qui reprennent la silhouette du corps, ces nuages sur lesquels, en métal, sur lesquels on projette des points, et ce qui, quand on passe dessous, les points s'animent. Mais tout ça appartient à tout le monde en même temps. Et je trouve que c'est une façon qui nous est chère de rejouer des liens des uns avec les autres dans des espaces qui sont inédits. C'est pas la rue, c'est pas non plus la nature, c'est un endroit où peut-être on peut jouer des choses et on peut se décaler un peu, on peut faire un pas de côté, on peut faire pas comme d'habitude. Et justement, c'est dans ce pas comme d'habitude qu'on peut peut-être, comment dire, inventer notre mémoire du futur, en fait. J'aime bien, dans la lignée justement de la pensée, de la sociologie de l'imaginaire, croire à cette puissance concrète de l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire et le fait qu'on le vive dans son corps permet peut-être de construire des choses qui sont après, qui ont une présence extrêmement forte dans notre quotidien.
Dans ces choses éventuellement qu'on imagine pour le futur, dans ces choses à venir qu'on expérimente maintenant, il y a des petites communautés temporaires. C'est-à-dire que je parle de cette communauté autour de la table, mais en fait, il y en a une autre qui s'est créée avec d'autres personnes dans un grand cube lumineux. Et c'était d'autres personnes, et il y avait d'autres liens et d'autres manières de fonctionner ensemble. Et quand je me suis déplacée et que j'ai été devant un autre, une sorte de d'écran, et ben là, c'était plutôt un duo. Et donc, en fait, aussi, on expérimente différentes manières de faire avec dans différents groupes, et voilà. Et puis on va pas du tout boire des cafés avec les gens après, enfin je veux dire, on se dissout. Ce sont vraiment des communautés très éphémères.
Tout à fait, et des laboratoires éphémères de liens, d'habiter, de façon d'être aux choses, aux autres, pour expérimenter en fait sur un temps court et sans enjeu, justement parce qu'il n'y a pas de fonctionnalité, qu'on a complètement sacrifié l'utile et la...
Pas d'objectif, pas de règles du jeu.
Et il n'y a pas d'enjeu marchand non plus.
Bon, sauf qu'il faut quand même régler...
Il faut quand même régler le prix de
l'exposition. C'était évidemment une de mes réflexions. C'est que je me suis dit, bien sûr, c'est hyper beau, mais quelle finesse cette manière de faire communauté comme ça. Puis, enfin, j'avais vraiment l'impression de voir des atomes qui se resserrent, qui se desserrent, etc. Sauf que j'observais qui était autour de moi et que c'était grosso modo des gens qui appartenaient probablement à la même classe sociale, qui avaient pu se permettre de payer ce prix-là à la Gaieté Lyrique. Bon, c'est pas une somme extravagante, mais c'est une somme que, évidemment, pas du tout tout le monde à Paris ou en banlieue parisienne peut débourser.
Alors,
comment on fait ?
Alors, c'est vrai. Ce que nous, on a pu observer quand même à la Gaieté Lyrique, c'est la différence d'âge. Donc, ça,
oui.
C'est déjà quelque chose.
C'est déjà
quelque chose.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on a vraiment tous les âges.
Il y a vraiment des enfants, des ados, des personnes âgées. C'est déjà une première diversité dans les petites communautés éphémères qui ne se passent pas toujours dans les lieux d'art, en effet.
Exactement. Ensuite, ce qu'on peut peut-être raconter, c'est qu'il y a une partie des installations qui forment le corpus XYZT qu'on a pensé et conçu depuis quasiment une dizaine d'années et qu'on a déjà tourné dans d'autres, voilà, qui se promènent en France et dans le monde depuis voilà une petite dizaine d'années, dans vraiment des configurations très différentes, notamment des entrées gratuites, notamment des lieux qui sont des toutes petites villes ou des périphéries, ou et on a vraiment eu l'impression de rencontrer des publics très différents.
Avec des pratiques différentes, ou alors en fait quand on enlève ses chaussettes, qu'on est dans l'obscurité et qu'on peut faire bouger des lignes de lumière blanche sur le sol en avançant doucement sa jambe, en fait tout le monde le fait.
On le dira pas, ça. On répondra pas à cette question.
C'est hyper intéressant.
Oh, mais en même temps, la constance, c'est vraiment le plaisir du jeu. Et le fait que justement dans le jeu, il y a plein de choses qui se jouent. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Ouais. Il y a plein de choses qui se rejouent, qui se repensent, et on a l'impression que les gens ils aiment bien quand même.
On entendait dans la voix de ce Michel Maffesoli l'idée qu'il fallait réenchanter quelque chose. C'est aussi un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, Adrien Mondeau. Finalement, on pourrait considérer que c'est toujours cette même histoire qui se répète. C'est-à-dire, il y a des outils, ils sont très fonctionnels, il manquerait quoi de magie, un peu, de vitalité ou d'animation. Et puis, il y a des gens qui arrivent et qui les réenchantent.
Oui, c'est à peu près ça. Je peux pas dire l'inverse. Non, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se rejoue. Après,
ouais, c'est quelque chose. C'est une histoire du regard. Le réel est enchanté. Il suffit juste de le regarder.
Absolument. Moi, je pense.
Et il n'y a pas du tout besoin de technologie pour ça. C'est juste que nous, on joue des situations symboliques qui permettent tout d'un coup de créer une attention et de créer une certaine façon de regarder les choses.
Mais on peut même retourner les choses. C'est-à-dire qu'on peut même considérer qu'une ligne de code, ou qu'un, à l'époque, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, c'est un enchantement. Enfin, tout dépend, en fait, le regard qu'on pose là-dessus. Donc, le réenchantement, c'est une position, c'est une posture. On peut considérer que c'est déjà enchanté.
Mmh, tout à fait.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'informaticien?
Bah, moi, je suis toujours surpris de penser que des lignes de code que j'ai écrites parfois il y a 10 ans, 15 ans, continuent d'être lues par des ordinateurs à chaque instant. Et pour certaines, d'avoir écrit des lignes de code qui ont été lues, j'ai fait une estimation, des milliers de milliards de fois, ça me sidère, je ne sais rien, les bras m'en tombent en fait.
C'est quand même fou le code, peut-être on peut dire deux mots de ce que c'est pour des personnes qui nous écoutent et alors, qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'une ligne de code et comment une ligne de code peut agir.
Alors une ligne de code toute seule, peut-être que ça peut faire quelque chose, mais on va dire le code informatique, il faut le voir vraiment comme une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on va prendre des ingrédients, ça va être par exemple des valeurs, et on va préparer quelque chose avec ces valeurs, un résultat, donc un plat à manger. Et la recette de cuisine, c'est suivre des instructions les unes après les autres dans un ordre bien précis et avec des durées bien précises. Et bien finalement, l'ordinateur, il exécute des opérations qu'on lui demande de faire, des additions, des multiplications, des divisions, mais aussi plein d'autres choses, des stockages de valeurs, etc. Et c'est comme ça qu'on construit un programme. Et là, bah, par exemple, dans Faircore ou dans l'ensemble des projets qu'on fait, on a un modèle physique qui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donne du poids à la lumière. Donc chacune des particules est un petit grain qui a une petite masse. Et ce modèle physique est exécuté 60 fois par seconde sur chacun des ordinateurs qui calculent l'ensemble de l'exposition ou des spectacles. Et à chaque fois, donc, faut faire tout le principe de ce modèle physique qui va être calculer les forces qui s'appliquent à l'objet, en déduire son accélération, etc. Et on intègre ces valeurs pour connaître ses positions à différents moments. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ces lignes de code, cette recette qui permet de calculer le mouvement en fonction des forces, c'est ça qui est le cœur du logiciel.
Pure équation.
Ouais.
D'une certaine manière. On est vraiment du côté des mathématiques et de la physique.
Exact. Sauf que on s'en sert d'une manière totalement empirique, c'est-à-dire, encore une fois, ce n'est qu'un outil pour s'exprimer et essayer de trouver l'expressivité. Par exemple, si un point blanc, on a l'impression qu'il a peur, ça veut dire qu'on a trouvé quelque chose qui titille l'imaginaire suffisamment précisément sur son mouvement. Et c'est ça qui nous fait rêver, quoi. C'est d'essayer d'exprimer quelque chose juste avec un point blanc.
Alors, sauf que moi, dans mon souvenir, quand on applique une fonction à un x inconnu, grosso modo, la fonction lui fait toujours la même chose.
Alors, on utilise beaucoup d'aléatoires informatiques.
Parce que du coup, tout à l'heure, vous disiez, on travaille beaucoup avec les bugs et les erreurs. Mmh. Et donc, moi, dans mon souvenir, il n'y avait pas beaucoup d'erreurs possibles.
Sauf quand ça devient extrêmement complexe. En fait, quand ça devient extrêmement complexe, que ce soit le logiciel, les calculs, soit on développe des centrales nucléaires, et dans ce cas-là, on a des équipes de centaines d'ingénieurs qui vont vérifier le code, ce qui n'est pas du tout notre cas. Nous, on laisse des bugs de partout, parce que juste on les voit même pas au départ, et puis en fait, ils nous explosent à la gueule comme un champ de mine un peu plus tard. Et on est obligé de composer avec ces bugs.
Mais c'est comme quoi, des espèces d'imperfections de l'équation de départ?
Oui, ou des effets de bord, c'est-à-dire c'était là, et juste on s'en était pas rendu compte dans une situation, et on s'en rend compte dans une autre situation qui est plus extrême. Et faut jouer avec. En fait, c'est ça qui est excitant, c'est que des fois, ça nous emmène à des endroits qu'on n'avait pas du tout prévus.
Vous êtes encore surpris?
Ah ouais, à chaque fois. Souvent, on dit, ah, j'en ai chopé un beau là, il est incroyable. Il y a des trucs vraiment, je ne me l'explique pas, mais en tout cas, il est là. Et des fois, on en arrive à penser qu'il y a des esprits qui nous les mettent dans les pattes parce qu'il se passe des trucs dans des endroits. On peut changer de salle et puis rien ne se passe comme prévu alors qu'il n'y a aucune raison objective que ça soit différent. Et un des exemples les plus fous qui m'est arrivé, c'est on faisait une conférence à la Villa Médicis. On avait prévu une démonstration qui mettait en jeu un peu de Wi-Fi parce qu'on avait besoin de transmettre des données. Ça marchait très très bien quand on l'a préparé et en fait, plus rien ne marchait sur place, absolument plus rien. Et en fait, on a appris que c'était Radio Vatican qui arrosait extrêmement fort tout Rome et que le Wi-Fi ne pouvait absolument pas fonctionner, même si la borne Wi-Fi était à 15 cm de l'ordinateur.
Mais c'est parce que tout ça aussi, ça travaille avec des ondes, ça travaille avec des transmissions qui sont à la fois très contrôlées et en même temps vivantes. On est là à la radio, mais vous parlez du Wi-Fi. Vous avez l'impression que je m'adresse spécifiquement à vous, mais beaucoup plus circassien ou informaticien ou metteur en scène ou scénographe.
J'ai du mal à me sentir légitime dans chacune des catégories et j'ai du mal à m'en exclure complètement. Quand j'étais informaticien, je passais mon temps à jongler. Aujourd'hui, je suis officiellement jongleur, mais je peux pas dire que je suis jongleur vraiment parce que je me sens, j'ai plus une pratique du jonglage qui est quotidienne, mais je passe beaucoup de temps à programmer. Et puis, je me rends compte que mon quotidien est plutôt fait de la conception des projets que d'être sur scène. Donc, voilà, j'ai du mal à me définir, mais tout me plaît à chaque fois, quoi, que ce soit être jongleur, informaticien ou metteur en scène.
Bravo. Et vous, Claire Barden?
Moi, j'ai été formée dans des écoles qui m'ont appris à faire du graphisme et de la scénographie. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je fais un peu de ça, mais je fais aussi beaucoup d'autres choses. Voilà, je sais pas. Mais metteur en scène de l'image? Je sais pas.
C'est un peu un degré zéro des choses et du monde. Comme s'il y avait la réalité, puis après il y avait les apparences, puis après il y avait la manipulation des apparences, puis après il y avait la fiction, etc., etc., etc. Mais le problème, c'est que la réalité, ça ne tient pas facilement comme concept. C'est une convention à partir de laquelle on peut humainement, éventuellement s'entendre. Mais de quelle façon et jusqu'où? Et donc, peut-être que l'objet de cette croyance, on l'approche avec l'image, justement. Je crois que le frisson, le frisson d'intensité de présence que l'on peut ressentir à la vue de telle chose, donc sous la forme de l'image qui se compose, ce frisson de présence, c'est la présence de plus que de cette chose, de toute la part invisible de cette chose, et qui fait que cette chose est pour nous quelque chose, et pas rien du tout. Que ce paysage est paysage, que ce visage est un visage, que ce geste est un geste. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout à fait invisible. Et pourtant, l'image ne le manifeste pas, n'en donne aucune apparence, mais les apparences qu'elle produit nous donnent accès à quelque chose que nous appelons la réalité. Et là, nous nous rendons compte que cette réalité, nous sommes incapables d'en dire quoi que ce soit. Elle est justement l'invisible.
2009, c'est la voix du philosophe Jean-Paul Curnier. En écoutant la voix de Jean-Paul Curnier, je me disais finalement, c'est étonnant de convoquer autant de philosophie, d'anthropologie, de sociologie, autant de pensées très complexes en fait. On part d'un espace dont on disait qu'il frôle le ludique, qu'il est dans le mouvement et la lumière, et puis ce qu'on vous met dans les pattes, nous, à la radio, c'est beaucoup de théories. C'est de votre faute, non? C'est vous qui allez vers l'abstraction, mais c'est vrai.
C'est bouleversant d'entendre ces paroles.
Ouais, c'est beau.
Parce qu'en fait, c'est vrai que, enfin là, ce qu'on vient d'entendre, moi, je l'avais jamais entendu, et j'ai l'impression que c'est tout ce que j'arrive pas à dire. C'est vrai?
Oui, c'est ça, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à dire, et au fait, qu'on essaye de dire juste avec des petits
des
points blancs,
des spectacles, des images.
Donc c'est, vous devez y arriver d'une manière ou d'une autre.
Bah, en tout cas, le langage parlé n'est pas forcément le médium de notre expression intime, quoi. Parce que les pixels blancs, on parle mieux.
Et pourtant, je trouve que assez souvent, on voit apparaître des lettres et on sent bien qu'il y a aussi quelque chose dans le rapport aux mots, au langage, qui est présent.
Alors ces recherches, elles sont plus vieilles, ce travail de mouvement typographique. C'est des choses qu'on a menées en 2010, 11, 12. On s'est vraiment rencontrés là-dessus au départ avec Claire. Et c'est quelque chose qu'on a moins investi ces derniers temps.
Après, ce serait mentir que de dire qu'on n'utilise pas des mots dans nos processus de création. Dans le grand puzzle du processus de création, grand puzzle comme ça qu'on construit avec plein de pièces, il y a des images, il y a des dispositifs technologiques, mais il y a aussi beaucoup de mots, vraiment.
Vous vous racontez quand même beaucoup d'histoires, on imagine.
Ouais.
Et le fait de travailler à deux, c'est sûr qu'on parle tout de suite.
On est obligé.
On serait pas obligé, non, je sais pas. Non, qui travaillent à deux, qui parlent pas.
On est, ah oui? Ah bah, ouais. Nous, on n'a pas réussi à trouver d'autres façons. On est obligé de, en fait, on est obligé de se convaincre déjà l'un l'autre. Et, de se raconter déjà les histoires. Et si l'autre, il est embarqué, ça veut dire que c'est une bonne piste. On est plus fort, hein, en travaillant à deux. Et avec, après, toute une équipe, bien sûr. Mais vraiment dans le processus de création, qui est un processus terrible. De doutes, de difficultés, on a quand même l'impression de s'être trouvé un bon compère de voyage.
Au-delà de la grande, peut-être, ce qu'on soupçonne en tout cas, difficulté de faire advenir vos visions, puisque vous disiez finalement, Claire Bardagne, c'est ça le plus difficile ? C'est la difficulté technique et technologique que les choses apparaissent telles que vous les avez imaginées ?
Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile ?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Non, la création est terrible. C'est terrible de créer. Ça, c'est la chose la plus terrifiante, je trouve, pour moi, en tout cas. Particulièrement les spectacles. Après, j'ai l'impression que rien n'est facile, malheureusement, dans tout ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Il y a toujours une multitude d'embûches pour que ça ait l'air simple à la fin. C'est...
Pour que pour nous, ce soit tellement simple, en fait.
Ouais. Mais en même temps, je crois que ce serait à nouveau mentir de faire croire qu'on n'aime pas les systèmes complexes et qu'on n'est pas aujourd'hui attiré aussi par des étapes multiples et variées qui font intervenir plein de métiers, qui nous font inventer des savoir-faire pas possibles, inviter des gens avec qui on a envie de travailler et pour construire des choses. Voilà.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité pour
plein
de simplicité.
Exactement.
Merci beaucoup à tous les deux. Il y en a qui ont la chance de pouvoir y aller encore, oui.
L'exposition est complète quand on se pointe, mais...
Mais on peut réserver.
Et on peut réserver.
Jusqu'en mai.
Deux, trois jours après, il y a de la place. Voilà, il n'y a pas de problème.
Claire Bardagne et Adrien Mondeau, merci beaucoup. Toutes les dates des spectacles en tournée sur le site internet franceculture.fr. À la prise de son ce soir, c'était Pierre Faucillon, à la réalisation Charlotte Roux. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Julie Ascal et Marianne Chassor. C'est aussi une page sur franceculture.fr. Par les temps qui courent, il y a une petite enveloppe pour nous écrire, les archives et la mention des musiques. C'est aussi un podcast via l'application Radio France. Dans un instant, le journal sur France Culture, 22h. Très belle soirée à toutes et à tous.